Et bonjour à tous, bienvenue dans le Paris Central Show avec Zaz Zedrias, a.k.a. Grishkor Bogdanov également. Trop de surnoms pour qualifier cet homme, et également Barry, le duo des GOAT est de retour. Bonjour à tous, comment tout le monde va?
Tranquille,
Ça va et
tranquille, et toi,
toi?
tonton?
Ça va, tranquille. Donc on se retrouve un peu pour terminer cette discussion qu'on avait eue après le débrief du match, notamment contre Monaco, qui nous a posé quand même pas mal de problèmes et qui est la première équipe cette saison, en tout cas, qui a commencé à poser des problèmes au PSG sur un match. Et en même temps, je vous propose qu'on fasse l'avant-match de Toulouse parce que demain, il se trouve qu'on joue contre Toulouse parce qu'on va enchaîner cette fameuse saga de un match tous les 4 jours pendant 16 matchs. Donc, je vois qu'on a un petit invité qui débarque. Je trouve le petit Hitch, comment va-t-il?
Eh oh, ça vaut quoi la tube?
Ça va, tranquille. Bah, justement, on était là pour parler de match de Monaco et de ce qu'on n'avait pas pu évoquer pendant le live dimanche soir. Et justement aussi parler du match de demain qu'on va jouer contre Toulouse. Parce que on a quelques petites nouvelles qui sont tombées très récemment dont on doit parler, notamment l'absence de Kimpembe qui a une courte blessure, l'absence de Sarabia qui vient de tomber également, qui ne pourra pas jouer contre Toulouse. Je pense qu'il va falloir faire tourner un peu les effectifs parce qu'on vient de jouer un match important contre Monaco. On joue encore ce week-end, on joue la Juve le week-end prochain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère voir un peu de changement. Donc je vais faire, comme d'habitude, un petit tour des caméras et comme ça on pourra avoir les avis de chacun sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses de tout ça pour commencer, Barry?
Alors déjà au niveau des blessures, bah, tu perds un Kimpembe qui fait un gros début de saison. Alors je ne sais pas quelle est la nature de sa blessure. J'espère qu'elle ne sera pas longue parce que s'il se blesse longuement, ça va commencer à devenir très compliqué. Excusez-moi, vous entendez le bruit qui est derrière là?
Non mais t'inquiète,
Non,
c'est
c'est
rien de
bon.
grave, tu peux continuer à parler.
Ok. Donc je disais oui. Donc si tu perds un Kimpembe longuement, ça va commencer à devenir compliqué en sachant que c'est ton meilleur défenseur sur le début de saison. Avec tous les problèmes qu'on a évoqués depuis des semaines et des semaines et des semaines, l'axe gauche, l'axe droit, patati patata, vous le savez, on va pas le répéter, mais si Kimpembe se blesse, ça va devenir compliqué. Sarabia, est-ce que Galtier le fait rentrer dans son plan de jeu? Je comprends pas, parce que Sarabia, il rentre, j'ai l'impression que Galtier n'a pas vraiment envie de le faire jouer. Moi, je préférais le voir plus souvent, tu vois, pour faire souffler les mecs de devant. Sarabia, je pense que contre Monaco, tu le fais rentrer un peu plus tôt.
Vas-y,
Mais
vas-y,
voilà,
continue de parler, je fais défiler, on attaquera après.
tu fais rentrer Sarabia un peu plus tôt contre Monaco, ça t'apporte autre chose offensivement, en faux numéro 9, en ailier, enfin voilà, ça t'apporte quelque chose de plus intéressant. En ailier, bon, on n'en a pas, mais enfin, en tout cas, le faire rentrer. Comment dire? Moi, je suis pas, j'ai trouvé que, tu vois, par exemple, quand tu sors Messi, bah, pour moi, tu dois sortir Messi à la 60e minute et faire rentrer Sarabia. Décaler Neymar un peu plus bas et tu mets Mbappé et Sarabia qui sont devant et qui se fixent devant, tu vois, pour peser sur une défense qui, eux, est une ligne de 5. Alors, je ne comprends pas pourquoi Sarabia rentre. On ne sait même pas quel est son placement. On ne sait même pas, enfin, on sait même pas pourquoi il ne le fait pas rentrer, tu vois. On ne comprend pas, en fait. Je parle du match contre Montpellier. Contre Montpellier, je crois qu'il n'est même pas rentré, si je ne dis pas de bêtises. Il n'est même pas rentré. Le premier match, il n'est même pas rentré, tu vois. Je trouve ça un peu particulier le truc de Sarabia. Donc, bon, après, les blessés, dommage. Donc, ça va permettre de pouvoir faire tourner. Après, je crois que ta question, c'était de savoir ce que j'attendais du match, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu t'attends à ce qu'on joue encore à 3 derrière? Est-ce que tu as Kimpembe qui est absent? Est-ce que tu penses qu'on va faire autre chose? Est-ce que tu t'attends à voir certains joueurs jouer? Parce que je pense que Galtier va un petit peu faire tourner. Voilà, qu'est-ce que tu attends comme composition face à Toulouse?
Bah, pour pas trop monopoliser la parole, ouais, moi, j'attends de voir du beau jeu. Après, je vais pas te mentir qu'actuellement, j'attends très peu du Paris Saint-Germain. J'attends plus des équipes contre lesquelles on va jouer. J'avais pas pu faire l'avant-match au Monaco, mais j'aurais dit que j'attendais très peu du Paris Saint-Germain, comme j'ai dit en space. Mais j'attendais beaucoup plus de Monaco. Je pense que Monaco a le système qui peut nous poser des problèmes. On l'a vu, c'était un clash de système équivalent, on va dire. Tu vois, ça pressait à trois des deux côtés. À la récupération du ballon, ça se projetait très vite en avant, etc. Donc, c'était un peu un clash du système. Et donc, Monaco avait ce système pour nous poser des problèmes. Donc, j'aimerais bien que Toulouse, malgré qu'ils n'ont pas la profondeur que Monaco a sur le terrain, qu'ils puissent pouvoir nous poser des problèmes. Après, ce que je vais demander au Paris Saint-Germain, ça va être ce qu'ils savent faire depuis des années, hein. Bien jouer au football, les projections en avant, les compensations défensives et offensives, les pressings, continuer à les faire. Parce que voilà, c'est bien de faire des pressings à la 20e minute, à la 60e minute, mais entre la 20e et la 60e, bah, il y a encore des pressings à faire. Il faut les faire constamment tout au fil du match. J'attends de voir ça. Et j'attends aussi un alignement de la défense qui est un peu plus cohérente que ce qu'on a vu au dernier match.
Justement, Hitch, pour continuer sur le sujet, tu t'attends un peu à quel compo de la part du PSG face à Toulouse avec, bah, on le rappelle, les absences de Kimpembe et Sarabia qui ne seront pas aptes à jouer le match.
Bah Kimpembe, oui, c'est un souci, Kimpembe, parce que Kimpembe, quand même, on a vu que Kimpembe, c'est quand même actuellement un joueur fort comme du PSG en défense. Et c'est pas celui qui fait le plus d'erreurs. Là, actuellement, celui qui a le plus de mal à s'adapter à la défense à 3, c'est Marquinhos. Donc, on va pas revenir sur le but que le Paris Saint-Germain se mange contre Monaco, qui est issu totalement d'un relâchement du placement de Marquinhos.
Non, Ramos.
Oui, Ramos est également
C'est
avec
Ramos qui se
Marquinhos.
passe mal, c'est Ramos qui s'aligne mal.
Et du coup, moi je pense qu'ils vont rester sur une défense à 3. Et je pense que à la place de Kimpembe, ce serait pas anodin qu'on voit du coup Mukiele. Mukiele qui peut jouer en défense à 3, Mukiele ou Leipzig, bah du coup eux ils jouent à 3, donc c'est un système qu'ils connaissent. Ce serait pas déconnant de le mettre titulaire ce serait et si à mon sens si surtout on prend Mukiele, c'est un peu notre trousse à outils hein, il peut jouer latéral, il peut jouer central, c'est un joueur qui est polyvalent donc du coup je pense qu'on va rester sur une défense à 3 et mettre Mukiele. Pour Sarabia, c'est un peu dommage. Après, c'est vrai que Sarabia, il se cantonne pour le moment à un rôle de joker de luxe entre guillemets donc son absence elle peut être compensable en réalité. Elle peut être compensable, donc c'est pas vraiment des blessures actuellement qui sont préjudiciables. À voir comment ça va évoluer pour la Juventus, parce que pour Kimpembe, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais c'est pas préjudiciable et c'est vrai que là, le Paris Saint-Germain, de toute façon, il doit faire tourner parce que il y a 48 heures, il y a 48 heures quasiment, il jouait contre Monaco, qui est une équipe qui a mis énormément de densité physique. Du coup, je m'attends à un système de rotation. Je pense que Renato contre Monaco, il a eu du mal. Et je pense réellement, moi, qu'il faut le réaligner. Il faut le réaligner contre Toulouse parce qu'il faut qu'il prenne le jeu à son compte. Il faut qu'il prenne le rythme. Et donc Toulouse, c'est l'équipe qui est prenable. C'était compliqué de l'aligner contre Monaco, mais moi, je pense qu'il faut le réaligner contre Toulouse pour qu'il prenne le rythme et le laisser au repos contre la Juventus. Pour vraiment qu'il prenne le rythme de cette Ligue 1. Parce que son profil, il va être nécessaire. Son profil athlétique, physique et en même temps technique, c'est un profil qui manque au PSG. Donc voilà, donc faut qu'il prenne le moule extrêmement rapidement, pour moi.
Alors, je vois vos commentaires, vous inquiétez pas, je rattraperai toutes vos questions après. Je préfère juste terminer les sujets que j'ai lancés avant de lancer la rubrique chat. Justement, Z, toi, pour conclure, je sais que tu parlais déjà du match de Toulouse dans le débrief contre Monaco. Tu t'attends à quel type de compo, justement, toi, contre Toulouse?
Bah, Toulouse, c'est pour moi, c'est vraiment l'opportunité de faire tourner. Toulouse, c'est très intéressant dans les intentions, avec notamment un Vandenboomen qui distribue des petites galettes qui sont sympathiques. Mais c'est d'une naïveté folle. C'est l'archétype de l'équipe que le Paris Saint-Germain, pour forcer son talent, va complètement ouvrir avec des espaces en défense qui sont monstrueux. Pour revenir sur Kim, contrairement à vous, ça m'inquiète pas à partir du moment où en fait Kim, on sait qu'il peut pas être là à la Juve. Donc on a vraiment besoin d'essayer un maximum de combinaisons et on n'a que 2 matchs pour le faire avant d'arriver sur ce match couperet pour la Juve. Maintenant, si Kim a une blessure qui est plus longue qu'une semaine et demie, là effectivement, ce sera chiant. Mais si sa blessure elle est de 1 semaine, 2 semaines, à la limite le timing il est presque parfait. Parce que justement, ça nous contraint en fait d'essayer de trouver des solutions avant d'arriver devant le match important. Et Toulouse, c'est, je pense pas que la défense sera vraiment mise à mal. Pour Sarabia, je vais juste, vas-y.
J'allais dire, même si tu peux même insister sur le point que tu évoquais dans le débrief de Monaco, Toulouse, c'est une équipe, comme tu le disais juste avant, qui a beaucoup de naïveté. Et un mec comme Renato aura vachement plus de facilité à jouer contre cette équipe que contre l'équipe de Monaco.
Ça c'est l'autre chose. Pour moi, Renato. Je l'engage pour la fin. C'est clair qu'on va pas tirer les conclusions sur son premier match, mais on a besoin. Ça dépend en fait si Marco Verratti est là. Si Marco Verratti est là, pour moi, il faut l'associer avec Vitinha. Pourquoi? Pour peaufiner encore un peu plus leurs automatismes. Et si, surtout si tu as l'intention de jouer avec ces deux-là à la Juve. Et d'une certaine manière, j'aimerais qu'on essaye Renato, pas forcément avec Marco Verratti, parce que Marco Verratti va devoir souffler aussi un match avant la Juve, et que le match où sera Marco Verratti, moi, je veux voir Vitinha. Après. Pour moi, l'axe de progression, c'est pas tellement physique au milieu, c'est vraiment la rapidité de la transmission de balle, là où Vitinha fait du bien. Et d'ailleurs, les difficultés qu'on a eues contre Monaco, faut pas qu'elles nous fassent oublier les difficultés qu'on a eues pendant les 20 premières minutes contre Lille, où c'était un petit peu mieux, mais justement un Vitinha qui cherchait pas forcément les passes vers l'avant, et on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à progresser. Et face à un pressing qui est fort, il faut apprendre à vite lâcher la balle, et c'est là-dessus que moi je vais attendre le Paris Saint-Germain, notamment à Marco Verratti, notamment nos centraux, être capable de trouver des solutions devant, pour être capable d'assurer des transmissions rapides pour aller trouver le premier relais si on est bas juste au niveau de la ligne médiane, si on est un petit peu plus haut au-delà de la ligne médiane, qui lui pourra écarter, etc., etc. Et c'est là-dessus que moi je vais attendre le club.
Alors justement, il y a des choses à prendre en compte qui sont quand même assez intéressantes dans ce qui est dit. Tu as l'absence de Kimpembe, comme tu l'as dit, il ne sera pas là contre la Juve, donc il faut tester des choses encore. Moi, je vois de deux manières différentes. Je me dis soit, de toute manière, Ramos, on sait que ce n'est pas un défenseur central dans une défense à 3 et encore moins axe droit. Dans l'idéal, il est dans un axe gauche. Donc si Kimpembe est absent, soit tu mets Ramos axe gauche, donc à son vrai poste, soit tu mets Diallo. Soit tu joues avec une défense Ramos, Danilo, dans le rôle hybride et Marquinhos à droite, soit tu fais Ramos à gauche, Marquinhos toujours dans la même position et Mukiele dans la position à droite, parce que Mukiele il va pas jouer à gauche ni dans l'axe, Marquinhos ne va pas jouer à gauche, il préfère jouer dans l'axe, et Ramos en soi il préfère jouer axe gauche. Donc moi je peux voir ça, pourquoi pas avoir aussi Bernat jouer, parce que Nuno aussi on va avoir besoin de lui contre la Juventus, donc faut un petit peu l'économiser. Pourquoi, j'ai vu aussi dans le chat la question, pourquoi pas Ekitike aussi. Je pense qu'Ekitike peut avoir du temps de jeu dans ce genre de match. Je ne sais pas s'il sera mis directement titulaire, je n'ai pas de certitude, mais par contre avoir du temps de jeu dans ce genre de match, au moins 10-15 minutes, c'est tout à fait faisable. Je ne sais pas ce que vous en pensez du cas Ekitike, chacun votre tour les mecs, mais moi en ce qui me concerne, je vois Ekitike jouer 10-15 minutes au moins en tout cas.
Sur le cas avec Ekitike, titulaire, ça va être compliqué, les gars. Faut aussi arrêter un peu la comédie. On veut le
voilà,
voir.
Voilà, il n'a pas de titularisation.
Tu vois, mais le mec n'a pas de titularisation. Et puis même, en fait, moi, ce qui me dérange avec le cas avec Ekitike, c'est que j'ai l'impression que vous faites tous semblant de ne pas savoir le cas réel avec Ekitike. Je vous rappelle que lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain, il est en phase de reprise. Il est en phase de reprise d'une blessure. C'est-à-dire qu'il a dû faire un travail de reprise. Et les 10 minutes qui sont données par-ci, par-là, c'est parce qu'il est en phase de reprise. Et moi, ça me dérange d'entendre des mecs me dire « Ouais, il faut le mettre titulaire ». Non, si on ne le met pas titulaire, c'est qu'il y a une raison. Déjà, de 1, il n'a peut-être pas forcément actuellement le niveau pour être titulaire, même si on veut le voir jouer. Il faut quand même être objectif. On va pas mettre Zaïre Emery titulaire, on va pas mettre Ekitike titulaire dès maintenant. Arrêtons un peu la comédie, arrêtez un peu vos farces. Ensuite, après, je pense que Ekitike, il pourrait peut-être jouer 15-20 minutes, voire 30 minutes. Tu vois, tu le fais rentrer à la 60e minute pour avoir du temps de jeu, une mi-temps, ça pourrait être très intéressant. Ensuite, sur la question de faire souffler, oui, je pense que ça serait intéressant de revoir Bernat, qui a fait de bonnes entrées pendant les matchs de préparation. Ensuite, qui a fait quand même une bonne fin de saison, même si on l'a senti un peu en dents de scie, mais il revenait pas mal la saison dernière. Peut-être voir Mukiele sur le côté de piston. Moi, personnellement, je ferais souffler les deux pistons, parce que c'est eux qui ont les plus grosses dépenses physiques pour les matchs, et forcément dans ton système de jeu, ça va être eux. Vitinha, Verratti, ou peut-être Vitinha, Renato Sanchez, pour, comme l'a dit Hitch, pouvoir relancer Renato Sanchez, même si je trouve que le terme est un peu dur. Le mec, c'est son premier match, donc c'est un peu logique. Et en défense, j'alignerai Ramos à gauche, je mettrai Marquinhos dans l'axe et je mettrai Danilo côté droit. Pour que Danilo et Marquinhos font un rôle un peu hybride où lorsque l'un sort, l'autre reste derrière, ou lorsque l'autre sort, l'autre reste derrière. Et ils se font un peu un petit changement de cette manière-là. Comme on l'avait vu notamment entre Marquinhos et Ramos lors du match contre le LOSC, où les deux sortaient pas mal et tu avais les deux qui faisaient une alternance dans ce rôle-là.
Après, justement, PSG Field dit quelque chose d'intéressant sur Renato. Il dit qu'il n'a pas fait de préparation complète déjà avec Lille, il n'a pas fait de préparation avec nous, il n'a pas joué les matchs de préparation avec Lille, il n'a pas eu de titularisation avant de jouer avec nous. Je pense qu'il y a quand même certaines choses qu'on peut prendre en compte au moment de parler de la performance de Renato Sanchez. Il est juste de dire qu'il n'a pas fait un bon match, il est juste également de prendre en compte tous ces éléments. Sinon, c'est un peu de mauvaise foi, quoi. Je veux dire, il y a des joueurs, c'est cool pour eux, tu vois, leur premier match, j'ai l'impression, ça fait 2 ans qu'ils sont là. C'est génial pour eux, mais c'est des ovnis.
Tu sais, hier, off, avec Drias, on avait ce débat-là justement sur Renato Sanchez et on est arrivé à la même conclusion. Déjà, le mec n'a pas eu de préparation optimale, pas de match avec le LOSC. Il n'a pas eu de préparation avec le Paris Saint-Germain. Il arrive dans un groupe qui a déjà fait une préparation estivale, qui a déjà commencé à bosser un système de jeu. Il arrive dans un nouveau système pour lui. Donc forcément, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Il n'a pas vraiment eu le temps peut-être d'expérimenter ce système de jeu-là avec ses collègues. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué quand tu le mets en tant que titulaire.
Ouais, sur Renato également, il y a le fait que déjà il n'a pas eu de prépa, que ça fait un certain temps qu'il n'a pas joué au football. Et je pense que ça, les gens l'oublient, mais parfois il y en a qui font des fives entre amis, juste ils n'ont pas joué 3 mois, ils sont déjà cramés sur le terrain, ils disent ah, j'ai plus de souffle. Bah, imaginez un professionnel, c'est encore pire. Maintenant, également, le style de jeu à Lille et le style de jeu au Paris Saint-Germain n'était pas la même. Comme je disais en space hier, je disais que pour comprendre un peu le cas Renato Sanchez, il faut essayer de voir s'il n'y a pas un match de référence à Lille de Renato Sanchez pour comparer. Et il y en a un, il y a celui-là qu'ils font contre Chelsea. Même si Lille perd, le match de Renato Sanchez est complètement fou. Mais il est complètement fou parce que Renato Sanchez, au milieu de terrain, il court, il abat des kilomètres. Il a la capacité physique, il a un énorme jeu physique, un énorme volume de jeu physique, ce qui lui permet d'être à la récupération et également à la relance. Et là où est très fort Renato Sanchez, c'est lorsqu'il récupère un ballon par un relais de passe court ou par des courses, il se projette très vite à l'avant. Mais le problème, c'est que Lille et Paris Saint-Germain, c'est différent. Parce qu'au Paris Saint-Germain, on ne te demande pas d'abattre les kilomètres. On ne te demande pas d'abattre des kilomètres, sinon Galaguer serait le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. On te demande une science de placement et une relance propre. Et cette science de placement, elle est superbe. Avec la vie qui fait de quoi elle parle. Pour les failles cramées. Ouais, non, nous on joue goal volant maintenant, ça y est, on a plus de soucis. Du coup, il y a une science de placement qui n'est pas la même à Lille. À Lille, il avait liberté au milieu de terrain, c'est-à-dire que l'équipe jouait pour lui, le faisait briller au milieu de terrain. Alors que c'est pas pareil au Paris Saint-Germain, tu dois faire briller les autres, tu dois bien te placer, tu dois lâcher le ballon au bon moment. Et Galaguer, il lui manque encore Renato Sanchez, il lui manque encore ce QI football pour rentrer dans le moule au Paris Saint-Germain. Et ça va venir avec les automatismes, avec le jeu, et c'est pour ça qu'il faut le relancer contre Toulouse. Il faut le relancer un maximum. Il faut le faire jouer, ce joueur. Et donc voilà. Maintenant, concernant le cas Ekitike, oh là là, on dirait un mot de passe Ekitike. Comme disait Arya dans Game of Thrones, not today. Pas maintenant. On sait pourquoi on le prend et Ekitike. Mais on ne peut pas le mettre titulaire maintenant. Ce serait une hérésie. Mais Galtier veut un attaquant de fixation. Il veut un attaquant de fixation parce qu'on sait très bien que Mbappé est l'un des meilleurs joueurs au monde, mais ce n'est pas le meilleur neuf au monde. Et Mbappé, là où brille Mbappé, c'est avec un attaquant de fixation qui lui permet de prendre la lumière et de courir et de partir en profondeur. Et c'est pour ça que Galtier le sait. Maintenant, est-ce que Ekitike pourra être cet attaquant de fixation? Pour le moment, on n'y est pas. On y est parce que de 1, le mercato n'est toujours pas fini. Et de 2, il y a des joueurs qui sont beaucoup trop forts pour lui actuellement. Neymar, Messi, tu ne peux pas te séparer de l'un des trois tridents. Donc Ekitike, oui, ça va être là, pendant les peut-être première ou deuxième année au Paris Saint-Germain, ça va être un impact player, un joueur qui va rentrer et où on va chercher une plus-value offensive. Mais c'est pour le moment, ce sera pas un joueur cadre pour le moment. Et Ekitike, il a le temps. Il faut le laisser grandir. Il faut pas aller trop vite.
Dria, encore, justement.
On me dit à Zaïre Emery, bien qu'il soit jeune, il y a des postes à prendre au milieu de terrain. Parce qu'il y a des postes à prendre au milieu de terrain. Peut-être qu'il peut, il peut dans le futur, un futur plus proche qu'Ekitike, sortir son épingle du jeu. Parce que c'est un secteur où le Paris Saint-Germain se cherche encore. Mais l'attaque, non. L'attaque, elle est inamovible.
Par contre, je suis désolé, il a beaucoup plus de concurrence au milieu de terrain Zaïre Emery que ce qu'il critiquait en attaque.
Mais le milieu de terrain, c'est pas encore figé, le milieu de terrain.
Je vais
l'attaque est figée, le milieu de terrain, non.
Mais justement, Zed, j'allais te dire, je te laisse continuer sur le sujet avant qu'on attaque sur autre chose.
J'ai pas le point de désaccord. Bah, après, pour les pistons, Barry a tout dit. Je voulais juste revenir très rapidement sur Ramos, le moment où il est devenu, alors je sais que ce sera pas possible pour Toulouse, mais le moment où il est devenu central, il a été très très bon. Et c'est à se demander s'il est le mec du centre de la défense à 3 sur la fin de match contre Monaco, il a été très utile dans ce rôle-là, et c'est à se demander si c'est pas meilleur rôle dans la plaque.
Juste, vu que tu lances Ramos, il y a l'info du Parisien qui est tombée.
Ouais.
Normalement, c'est Danilo qui sera aligné et Bernat sera sur le terrain.
Donc, voilà. C'est une défense à 4
Non.
Ça pas précisé pour Marquinhos.
Mais, en fait, il veut faire souffler Ramos. Et vu que Danilo a eu un comportement irréprochable selon Gadget, bah, il veut le faire jouer. Voilà.
Mais de toute façon, je pense que la défense à 4, on ne la verra pas. Hein. On a tout travaillé, on axe tout sur la défense à 3. C'est un système qu'on est encore en train d'apprendre à maîtriser. Passer dans une défense à 4 sur un match maintenant, ce serait juste mettre en l'air tout un tas de repères et on ne s'en sortira pas. Alors pour Renato Sanchez et pour Ekitike, je ne suis vraiment pas d'accord pour le coup. Pour moi, l'étiquette, hein, c'est plus simple à dire. Pour moi, c'est le match parfait Toulouse pour le lancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une défense qui est faible. Alors déjà, l'étiquette, parce que j'ai peur de...
Dis Hugo sinon.
On comprend pas. Il y a trop de cas, trop de DC.
Il a un prénom super simple, les mecs. Appelez-le par son prénom. Son prénom est très simple.
Il est pris dans l'idée à terme, pas forcément de remplacer Mbappé, mais un peu dans le même profil de Mbappé. Il sait un peu jouer en rupture, mais surtout un joueur d'espace. Quand il était à Reims, il était tout seul en pointe et il devait se démerder. Et en fait, le jeu, il était très peu organisé en remise parce qu'il était très peu dans une situation où il y avait d'autres personnes qui venaient l'aider. Il était beaucoup plus lancé en profondeur. Et c'est pas un vrai attaquant de rupture, c'est pas un vrai pivot, c'est pas vraiment ce profil-là. Et la comparaison pour moi avec Zaïre Emery, elle a rien à voir. Zaïre Emery, on parle d'un joueur qui a 16 ans. Pour moi, Zaïre Emery, il faut l'intégrer, mais il faut pas l'intégrer comme si c'était le quatrième au poste. Zaïre Emery, il faut lui donner 10 minutes de par-ci par-là pour lui faire goûter le haut niveau, pour lui faire goûter à la pression inhérente à jouer au Parc des Princes dans des matchs qui sont relativement acquis, etc. Alors que Hugo. C'est vachement plus simple. Enfin, pour moi, il est plus prêt et c'est l'occasion parfaite de Toulouse de lui donner du temps de jeu pour voir ce qu'il vaudra. Parce que au niveau de la défense, ça sera vraiment vraiment simple, hein, tout. C'est pas pour leur manquer de respect, j'ai énormément de respect pour tout ce qu'ils ont fait, la manière avec laquelle ils sont montés, la logique du club, le fait d'énormément s'appuyer sur la data, mais le niveau des joueurs est pas encore là, quoi. Et pour Renato, Renato, déjà, défensivement, c'est un des pires en Europe, hein. C'est pas un mec qui fait beaucoup de récupérations.
Ça faut arrêter avec ça.
D'un point de vue statistique, il est dans le bottom percentile des duels aériens gagnés, des duels au sol gagnés, des actions de pressing, etc.
Quand tu parles comme ça, moi je vois ce que tu dis. Mais par contre, je pense que tu n'as pas été clair pour plein de gens en disant le bottom percentile.
Ah, ça veut dire que c'est clair,
mais précise.
En comparaison avec les joueurs qui jouent au même poste que lui, voilà. Être dans le top 10 percentile, ça veut dire être dans les 10% des joueurs, donc au même poste, qui sont les meilleurs sur cet axe. Être dans le bottom.
Tu sais, Brias, je savais que tu allais dire ça et je t'arrête justement en train de rechercher ça, justement. Je vais te laisser.
T'es sur WeScoot?
Ouais, mais.
je suis en train de sortir toutes les données.
Je vais des graphiques, mais bon, après, on va pas épiloguer dessus. Je vais revenir sur ce que je veux dire sur Renato. Je voulais juste préciser que défensivement, il est pas bon. Et d'ailleurs, sans se montrer, sa seule bonne action, c'est effectivement, il fait un pressing, mais après, défensivement, il sera sur tout dans le match qu'il fait. Maintenant, Renato, ouais, c'est un impact player. Et ça, c'est très bien dit. C'est un joueur qui, effectivement, va pouvoir, par les courses, amener quelque chose de différent. Et pareil, Hitch, tu dis très bien le truc. Tu dis très bien qu'à Paris, on va attendre des joueurs qui soient bien placés, qui passent la passe au bon moment. Et j'aurais tendance à dire, est-ce qu'on fait pas assez des circulations rapides? Et là, un Renato, pour moi, il n'est pas compatible. Par contre, là où il devient très compatible, c'est quand tu le fais rentrer en fin de match, quand l'équipe adverse est fatiguée, par exemple à la 70e ou à la 65e, où là, effectivement, il va amener son impact et il t'amène une autre solution. Mais en début de match, pour moi, ce n'est pas une réponse de long terme, Renato Sanchez, même à son meilleur. Et du coup...
Je présente le fan club de Renato Sanchez en France, termine.
Et du coup, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. S'il n'y a pas Marco, pourquoi pas Renato le faire jouer un match, parce que je partage son avis. Il a besoin de temps de jeu, il a besoin d'apprendre l'équipe, d'apprendre comment joue l'équipe, etc. Mais s'il y a Marco, Vitinha tous les jours, tout simplement pour maximiser leur entente, parce qu'on aura besoin de leur entente contre la Juve, quoi.
Ok. Juste pour revenir sur les stats de Renato Sanchez, j'ai les stats sous les yeux sur sa saison à Lille, la dernière saison.
Attends, sur quel site?
Sur Foot Mercato.
Non, non, mais
mieux faire. Peut mieux faire.
Oui, mais ça, c'est fiable.
T'as Wizgood, t'as Wizgood, t'as Wizgood, t'as F, bref, qui est
gratuit. Je vous prends pas Wizgood, je vous prends pas Wizgood, c'est pas Octa, mais ça va quand même.
T'as Wizgood, et les stats où il est dégueulasse défensivement, c'est les stats de Wizgood sur la saison dernière.
Et t'as F, bref, aussi.
Alors, écoute, je sais quoi, regarde.
Là, en tout cas, sur ces stats-là, c'est vrai que c'est pas incroyable.
Les gars,
on va pas plus.
On va poursuivre le débat plutôt que de faire le concours de celui qui a le meilleur site de stade parce que c'était pas le but du live et on
non, mais clairement,
c'est même pas ça, c'est que l'argument, et Renato Sanchez, je l'ai entendu 1000 fois sur cette chaîne, comme quoi Renato Sanchez ne sait pas défendre. Alors oui, je veux bien que Renato Sanchez soit mauvais dans son placement à certains moments défensivement. Là, je suis d'accord. En défense en zone, à la rigueur, je peux être d'accord. Par contre, me dire que Renato Sanchez a des stats pitoyables par rapport au reste d'Europe, tu sais quoi, regarde, j'ai pris les stats qu'il a par rapport à Goretzka, qui, on est d'accord, défensivement, une machine du côté du Bayern Munich. On est d'accord, Tonto, tu regardes beaucoup le Bayern.
Je qualifierais le plus de Goretzka, mais il sait bien le faire, oui.
Il sait bien le faire ou pas? Il le fait très très bien, on est d'accord. Pas très très bien, mais il le fait bien. Ok, bah, Renato Sanchez a pratiquement les mêmes stats que Goretzka. Alors oui, son placement à Renato, le placement de... Oui, non, mais de toute façon, avec les stats, on peut dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dire. Si je cherche quelque chose, par exemple, regarde, je peux te dire que Renato Sanchez est mauvais en tacle. Par contre, je peux dire que Renato Sanchez est mauvais en interception. Par contre, en tacle, il a des stats qui correspondent à la moyenne d'Europe. Tout simplement, je les ai devant moi. Il a 0,8, Goretzka est à 1,2. Les gars, faut aussi un peu arrêter de nous dire oui, mais le gars est mauvais. Non,
les tableaux, je les ai pas sous les yeux, j'ai la peine de les rechercher, mais je te les enverrai.
Voilà. Munda,
c'est pour ça que je vous disais qu'on ne s'éternise pas non plus sur le début du tableau, parce que moi, si je vais sur mon site, j'ai pas les mêmes stats que toi, Barry.
Après, si je peux me permettre, au niveau des stats, je suis d'accord que les stats, elles veulent tout et rien dire. Il faut se faire la vie sur le joueur. Mais après, c'est pour ça que moi je dis, il faut regarder un peu les matchs des références. Moi, je vous invite à regarder les matchs de Lille, notamment Ligue des Champions, où vraiment, vraiment, on parlait d'impact player. Et ben, Renato, ça a été un impact player à la fois offensivement, bien sûr, parce que je répète, la force de Renato Sanchez, c'est les transitions défense-attaque ou à la récupération du ballon par lui ou par l'un de ses coéquipiers.
Vas-y, je t'écoute.
Il a bugué.
Du coup, en relais ou en
attends, c'est bon, il a repris. Laisse.
Ouais, désolé. J'ai dit en transition défense-attaque, il se projette très rapidement devant. Et c'est extrêmement intéressant pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Maintenant, oui, là, actuellement, les places sont dures à prendre. Du coup, Renato, en impact player qui rentre dans un match. Bien sûr que pour le moment, c'est l'option la plus intéressante. Après, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Parce que là, actuellement, quand même, au Paris Saint-Germain, il y a des match-up ultra intéressants. On a Hakimi Mukiele, on a du coup Renato Sanchez Vitinha. Les places sont dures à prendre. Donc, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Je pense que Renato Sanchez, c'est un joueur qui peut apporter un style différent au Paris Saint-Germain, parce que moi, les gens disent Vitinha. Et on compare même au grand Barça avec des Busquets, avec des milieux super techniques, des Xavi, Iniesta, en me disant oui, mais la dimension physique n'est pas forcément obligatoire quand tu as une assise dominante technique. Je dis oui, mais ça dépend après le style de jeu. Moi, personnellement, un milieu Verratti Vitinha à deux contre une armada, contre une équipe vraiment qui va presser, qui va mettre de la densité physique, j'attends de voir également. Et c'est pour ça que quand même Renato Sanchez, il a ce rôle quand même.
On va passer Milan sur Renato.
Les gars. Vous m'avez forcé à ressortir le vieux jingle.
Dans tous les cas, hein, parce que moi j'ai été coupé dans mon propos, mais sur le Renato Sanchez, il va, en fait, en vrai, hein, tu vois, je veux bien qu'on me dise qu'on défend son zone, etc. Sur certaines choses, il est mauvais. Quand tu me parles de son placement défensif, oui, par contre, que tu me dises que Renato Sanchez est mauvais en défense, c'est faux. Renato Sanchez est très bon.
Il va remettre une pièce dans la machine.
Il va être plus compliqué. Il va être plus compliqué à la récupération, mais ne dis pas que Renato Sanchez défensivement est mauvais.
Je vais remettre le jingle.
Ok, mais je t'enverrai
les stats. Je vais remettre le jingle si vous continuez à parler de Renato.
C'est bon, les gars,
Oui,
Renato, on a
parce que
préparé.
les
Mais
gars,
c'est
les gars.
intéressant.
Là, tu vois, j'ai le bon truc. Danilo, et je préfère Danilo à Renato. Moi aussi, je préfère Danilo à Renato défensivement parce que Danilo est mieux placé, a un meilleur placement que Renato et il
On a
anticipe mieux.
là.
Mais c'est pas le même apport.
Moi, je vous propose plutôt qu'on mette ce commentaire en avant. Et si on parlait de Fabian Ruiz, qui est censé arriver aujourd'hui, et de la piste Carlos Soler, qui a été évoquée notamment dans les médias aujourd'hui, qui sont quand même des dossiers plus récents, justement, qu'est-ce que vous pensez de Fabian Ruiz? Bon, Barry, tu as déjà fait une vidéo sur le thème, mais bon, est-ce que toi, tu es plutôt satisfait globalement de l'arrivée de Fabian Ruiz ou tu es un peu étonné de cette arrivée?
Moi, au début, j'ai été étonné, mais ça correspond à une logique. Quand tu regardes, parce que je sais qu'on va parler de stats, quand tu regardes les stats de Fabian Ruiz, déjà c'est un très bon intercepteur. Il a quand même 75 interceptions depuis qu'il est arrivé à Naples. Ensuite, l'avantage enfin, ce que sait faire Fabian Ruiz, un parrainé sait le faire. La seule différence entre les deux, c'est que Fabian Ruiz, il peut te récupérer le ballon et te le faire remonter. J'en avais parlé notamment dans une vidéo avec notre ami Tim Seria. Et on est arrivé à la même conclusion. Fabian Ruiz, c'est pas forcément le joueur qui va changer ton animation offensive comme un Vitinha a pu le faire, comme un Bernardo Silva pourrait le faire ou comme d'autres joueurs peuvent le faire. Par contre, c'est un joueur qui, si tu as un score à conserver ou un score à aller chercher, tu le fais rentrer à la 60e minute, c'est le genre de mec, tu le fais sortir Vitinha, tu le fais rentrer, il va pouvoir te trouver tes pistons, chose qu'on avait du mal à trouver à Monaco. Hitch, on entend ton micro. Tu vois, il va pouvoir te trouver tes pistons, chose qu'on a eu du mal à Monaco, pouvoir te trouver les attaquants de devant, chose qu'on a eu du mal à Monaco. Il va pouvoir essayer de te casser des lignes, balle au pied, chose qu'on a eu du mal à faire contre Monaco. Donc, je pense que Fabien Ruiz pourrait être intéressant. Après, est-ce que c'est le mythe? Hitch, ton micro, wesh.
Hitch, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il fait des travaux en même temps, il lui coupe son
et
micro.
donc oui, et donc oui, Fabien Ruiz, c'est pas le joueur qui va changer ton milieu de terrain. Par contre, c'est un joueur assez intéressant, je trouve. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite avec Tim Seria sur le cas Fabien Ruiz.
Alors, avant qu'on continue sur le cas Fabien Ruiz, je suis désolé, je vais devoir lâcher le dictateur Barry commencer. On est 180 en live et on a droit à 30 pouces. Vous voulez Adrien Rabiot? Vous voulez que Kurzawa y reste? Vous voulez que la piste du milieu de terrain, ce soit Adrien Rabiot? Vous voulez que la piste d'attaque, ce soit, je ne sais pas, Choupo-Moting? Je ne sais pas, faites quelque chose, les mecs. Vas-y, Barry, je te laisse poursuivre sur ces genres de menaces avant que Hitch continue sur le sujet.
Non, mais en vrai, j'ai pas envie de monopoliser la discussion parce que j'en ai déjà parlé de
Mais non, je te parlais des likes, moi, quand je te disais de faire la chasse aux likes.
Ah oui, ok, je croyais que tu parlais de Fabien Ruiz. Ouais, du coup, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît, ça fait plaisir. On est 183, donc si on pouvait attendre au moins les 90 likes, ça nous aide au développement et au
Bon, la moitié, ouais.
Abonnez-vous, activez la cloche et surtout commentez. Et même là, je vois des commentaires dans le chat qui sont assez intéressants, notamment juste celui-ci parce que je voulais y répondre tout à l'heure. Vous êtes en contact avec Paris United. Alors, on a déjà tourné des vidéos avec Yacine de Paris United.
Oui.
On est en contact avec eux, notamment sur les réseaux, via des posts, etc. Est-ce qu'on a déjà eu l'idée de faire un truc ensemble? Non, mais oui, on y a pensé et un jour, on leur proposera.
Voilà, après, on est différents. C'est pas on a un groupe affilié ou quoi. Ils ont leur truc, on a leur truc,
ouais.
Tout simplement. C'est des choses différentes. Mais vas-y.
On a la même passion, c'est tout.
Mais justement, si tu voulais t'exprimer sur Fabian Ruiz ou Carlos Soler ou les deux.
Ouais, moi j'ai vu la pub, j'ai vu Fabian Ruiz, donc je l'ai suivi un peu parce que j'ai suivi du coup les matchs de Naples. C'est vrai que il a un QI football, on va pas se mentir, il a un QI football. Il récupère les ballons, il peut réorienter le jeu. C'est pas un joueur super rapide, mais c'est quand même un joueur assez technique. Mais après, honnêtement, moi, cette piste-là, c'est pas celle qui me fait le plus rêver, en réalité. Hein, parce que, encore une fois, si tu vends Paredes pour acheter Fabian Ruiz, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si, je sais pas, tu passes, sans leur manquer de respect, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est comme tu passes tu vends une Clio 3 et tu passes à une Twingo 2, c'est pareil. Enfin, je dis pas qu'ils correspondent à ces voitures-là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même gamme de joueurs. En réalité, je sais pas quelle est la plus-value vraiment de Fabian Ruiz par rapport à Paredes. Pour moi, c'est les deux ont à peu près le même style de jeu. Les deux sont
les plus mobiles.
Comment?
Les plus mobiles. Il est plus mobile.
Il
Paredes
se
déplace très peu avec le ballon.
Il y a même pas
photo. Paredes est un peu plus mobile. Fabian Ruiz aussi. Question d'ouverture de
Fabien
jeu.
Ruiz,
les
il est
deux
beaucoup
sont
plus mobile. Fabian Ruiz, il est beaucoup plus mobile. Fabien Ruiz, il peut te récupérer le ballon, il peut te récupérer le ballon et te le remonter sur 30-40 mètres. Là où Verratti va te le remonter sur 10 mètres, là où Paredes va te le remonter sur 1 mètre, bah lui te le fait sur 20-30 mètres.
Oui, mais Paredes a cette capacité de passe qui peut vraiment complètement te casser le jeu. Donc c'est pareil. Donc au final t'occultes une qualité pour une autre. Et je sais pas si en fait t'élèves ton niveau de jeu de manière significative avec un Fabien Ruiz plutôt qu'un Paredes. C'est ça en fait la question. C'est, est-ce que c'est vraiment une plus-value?
Alors, il y a deux arguments que tu peux avancer sur Fabien Ruiz. Tu peux te dire que déjà, avec la mise à jour du fair play financier et les salaires, bah, t'es plus rentable de recruter Fabien Ruiz que de garder Paredes. Tu peux te dire également que c'est pas le même profil de joueur. Vous qui aimez bien les stats, je vous invite à voir la jolie stat qui disait le nombre de passes qui faisait gagner plus de 30 mètres sur la saison. Bravo. Je vous invite à additionner Verratti plus Paredes. Bah, ça fait Fabien Ruiz quasiment. C'est quand même assez impressionnant. Donc, tu t'offres un autre registre de jeu. Tu t'offres quelque chose que tu n'avais pas dans ta palette de milieu. Et comme tu perds beaucoup de milieu, parce que tu as les départs de Herrera, de Wijnaldum, le départ de Gay, le départ de Xavi Simons, mine de rien, tu as quand même beaucoup de joueurs qui quittent le club à ce poste. Bah, tu fais des départs au poste de milieu, tu fais venir d'autres joueurs avec des profils différents, parce qu'il faut que tu aies une palette assez complète au milieu au final. Et Fabian Ruiz t'apporte des choses que Renato, Vitinha et Verratti ne t'apportent pas. Après, il a des défauts, mais ils sont différents aussi, tu vois. Et pour Carlos Soler, c'est un profil plus offensif. C'est, je pense que ce sera plus pour remplacer Messi dans le rôle de celui qui sera numéro 10, entre guillemets.
Mais si tu veux poursuivre,
si tu veux poursuivre justement Z sur le sujet de Fabian Ruiz, Carlos Soler ou même les deux, si tu te sens.
Ouais. Bah après Carlos Soler, je le connais pas du tout. J'en ai entendu bien, mais c'est juste j'en ai entendu bien. J'ai lu plus milieu, mais certains disent comme toi qu'il pourrait venir pour compléter l'attaque. Etc. Fabien Ruiz, c'est un joueur qui a des passes qui sont parfois pastoresques. C'est un joueur qui joue très souvent en une touche de balle. C'est un joueur qui a une certaine lenteur défensivement. Il est intéressant, mais c'est pas Marco Verratti dans la défense sur l'homme. Mais oui, c'est pas du tout le même rôle que Paredes. Ça a rien à voir. Paredes, c'est un régista. Fabien Ruiz, c'est un milieu qui est tout terrain et qui joue beaucoup sur son jeu de passe. C'est pas tout terrain à la manière de Renato, mais il joue beaucoup sur son jeu de passe, sur la rapidité des transmissions, sur sa vision du jeu.
Dédicace à Molina.
Et il est extrêmement intéressant. Et je suis ravi qu'il vienne pour justement, comme tu l'as très bien rappelé, tonton, on est face à un secteur qui se dépeuple. Ma seule inquiétude, en fait, si on fait Ruiz et Soler, sauf si Soler part pour venir devant, mais si on fait Ruiz et Soler qui seront au milieu, c'est pour Zaïre Emery. C'est-à-dire que moi, c'est un jeune, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il n'est pas à mettre au même niveau que les autres, c'est juste une autre catégorie. Il n'est pas genre dixième ou premier dans la rotation, il est ailleurs. Et j'aimerais qu'il ait ses 10 minutes. Et si tu commences à vraiment avoir beaucoup de joueurs au milieu, bah, ces 10 minutes seront compliquées à trouver. Donc, c'est ma seule limite au fait de recruter les deux, c'est quid de Zaïre Emery. Mais a priori, de ce que j'entends pour Carlos Soler et de ce que j'ai entendu et vu
sur le terrain, je te rassure.
Grand, grand oui. C'est un très, très, très grand oui.
Alors, Carlos Soler,
juste la conférence de presse de Christophe Galtier, il dit « Hugo Ekitike a une réelle envie de jouer, on croit en lui et son potentiel, il va avoir du temps de jeu, c'est une évidence. »
Voilà. Non, voilà. Après, je pense que ouais, il aura du temps de jeu justement dans le match de demain. Donc, il y a une logique de jeu contre Toulouse. Mais vas-y, Zed, je te laisse poursuivre justement sur Carlos Soler et sur.
Oh là, Christophe Galtier a parlé de Skriniar. Galtier a parlé de Skriniar aussi.
J'avais.
Et il parle français, Christophe Galtier, depuis qu'il est arrivé. Donc, s'il parle de Skriniar, c'est bon signe. Ouais.
Je ne peux pas vous dire que c'est fini. Il a été ciblé depuis longtemps. Les négociations sont difficiles avec l'Inter, mais il reste un peu plus de 48 heures avant la clôture du mercato. Il confirme l'info des journalistes pour dire que le club fait tout pour ramener Skriniar. Donc là, il en parle ouvertement.
Le Mohamed Denis de Paris Central, non, blague à part, Damidoff pose une vraie question, c'est quand que Hitch reprend les Burt et les chats sur Twitch?
Si le PSG, je m'engage là maintenant, vas-y. Si le PSG, là, vraiment, ils mettent une diff de 3 buts à la Juventus prochain match, je fais un live de 12 heures sur Bertelichan, sur la chaîne Paris Central.
C'est
12 heures.
Noté, c'est noté, t'inquiète, je te le rappellerai, ce sera screené dans l'émission. Vas-y, Zed,
12 heures,
je te laisse continuer.
8h, 8h, 12h.
Trop tard, t'as dit 12h.
On verra. Vas-y. Réparti, 4-4-4. Vas-y, allez, c'est bon.
Mais vas-y, Zed, je te laisse continuer sur le sujet. Ouais, Fabien Nourrice et Carlos Soler ont un peu coupé, désolé.
Non, j'avais conclu et juste pour réagir aux rumeurs, bah, Skriniar, moi, depuis très longtemps, je dis. Que je suis relativement confiant qu'il faudra attendre la fin du mercato pour voir. À un moment, j'ai eu très très peur quand il y a eu cette rumeur de Nasser El Khelaifi qui s'est déplacé à Milan pour aller discuter en tête à tête en faisant un peu un caca nerveux, ce qui était ressorti, etc. Bah, du coup, j'ai eu très très peur. Là, je recommence à prendre espoir et ça fait plaisir. Et pour Ekitike, ouais, je pense que clairement, il faut qu'il ait du temps de jeu. Moi, je le vois même titulaire. Je suis le seul ici. Mais il faut au moins qu'on le voit 15-20 minutes, donc c'est cool. Et pour les deux milieux, ouais, je t'ai dit, Soler, je ne connais pas assez, mais Ruiz, c'est un immense coup.
Alors, sur ce qui a été dit, notamment sur Skriniar, je vais faire une petite dédicace à un tweetos qui nous aime bien, Carter, qui tweetait ce matin, si le PSG a repris les négociations avec Skriniar, c'est que le joueur a la volonté de venir au club. Parce que si le joueur ne voulait pas venir, et ça, il a raison dans ce raisonnement, si Skriniar, au fond, il avait tant envie que ça de rester à l'Inter, et qui ne voulait pas aller au PSG, est-ce que les négociations reprendraient?
Et c'est
non,
peut-être,
aucun.
Et l'Inter peut peut-être se rendre compte qu'ils ne pourront pas le prolonger, en fait. Et ça peut changer la donne.
C'est ça. Et peut-être qu'ils se disent que l'offre du PSG, elle est honnête pour un an de fin de contrat. Si c'est Nasser qui prenne les négociations, ils savent qu'il est moins raisonnable que Campos, et que peut-être ils pourraient faillir à partir d'un certain prix. Moi, je pense que l'Inter, depuis le début, ils veulent un certain prix pour Skriniar, et que le but de toutes ces manipulations, c'est de nous le vendre au prix auquel ils ont fixé. Je vous rappelle qu'on parle d'un club qui nous a vendu Hakimi à 70 millions et qui a réussi à les obtenir alors qu'au début, on ne voulait pas les payer. C'est un club qui nous a fait cracher entre 50 et 70 millions. On ne saura jamais pour Icardi parce qu'il les a demandés et on a fait en sorte de les payer. Quand l'Inter veut un prix, il l'obtient. Donc, je me pose la question de est-ce qu'au final… Skriniar, tout ça, l'Inter, c'est pas une manœuvre pour finalement toucher l'offre que l'Inter veut depuis le début, qui avoisine les 70 millions, parce que tu as toujours cette folle rumeur que l'Inter doit trouver 60 millions avant la fin du mercato. S'ils ont les 70 millions, ils sont tranquilles. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas, entre guillemets, un argument à prendre en compte, tout ça, tu vois?
Vas-y, hors des caméras, comme d'habitude. Skriniar, on en a beaucoup parlé, etc.
Ah ouais, bien sûr.
Pas répéter ce qu'on a dit sur ce qu'il apportera au Paris Saint-Germain, etc. Mais je vous dis la vérité. Si, depuis le 1er juillet, tu nous fais perdre notre temps, nous annonçons Skriniar, en étant sur Skriniar, en ayant perdu toutes tes pistes, et que derrière, tu vas te rabattre sur un panic buy d'un joueur qui, tu ne sais même pas quel est le vrai niveau, je trouve ça quand même un échec. Après, comme moi, je l'ai répété hier en space, hein, je vais le répéter face caméra, comme ça, c'est un truc qui va rester. Skriniar à 70 millions, je suis désolé les gars, tu te fais poutrer. Faut parler français un peu, faut arrêter un peu la comédie. À un an de la fin de son contrat, 70 millions, les gars, tu te fais poutrer. Malgré le niveau du joueur. Le joueur, attention, je ne parle même pas du niveau du joueur, mais je te parle en termes de valeur.
L'opération de transfert, bien sûr.
Voilà, tu vois, par exemple, hier, je parlais du cas d'Izazi. D'Izazi, si t'arrives le 1er juillet, on dit 50 millions, tu claques la porte. T'arrives le 29, on dit 50 millions, bah là, vas-y, à la rigueur, t'as plus le choix. C'est pour ça qu'on dit 50 millions. Skriniar, je suis désolé, mais dès le début, on t'a annoncé 70 millions. En plus, on t'a dit 90 millions parce que Bremer est parti, etc., etc., etc. Je suis désolé, mais dès le début, l'Inter avait l'intention de te poutrer. Pour moi, Skriniar, tu proposes 60 millions bonus, 50 millions plus bonus. Normalement, ça part, tu vois. Normalement, ça part. Malgré le niveau du joueur, que je répète encore, malgré le niveau du joueur, Skriniar, l'Inter n'a jamais fait de gros parcours en Ligue des Champions, les gars. Arrêtons un peu et ne me sortez pas les excuses de Maguire, il est parti à 80 millions et Van Dijk est parti à je sais pas combien. Là on parle de
ça, c'est la première ligne.
C'est un autre monde, c'est un autre niveau. Lukaku il est parti à 130 millions, il les a jamais valus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc tu vois quand même il y a quand même une volonté de l'Inter de nous poutrer. Donc est-ce que ce serait un échec de ne pas avoir Skriniar? Je dirais oui parce que tu as perdu toutes les pistes qui auraient pu combler l'échec sur ce dossier-là. Par contre, à ce prix-là, non, soit c'est un échec qui est logique, qui est normal.
Alors, il y a OK qui a quand même mis deux arguments qui sont assez intéressants. Il disait, mais est-ce que l'Inter, quand tu vois leur groupe, ils peuvent se permettre de compter sur la Ligue des Champions pour pallier aux problèmes financiers? Non. Et en soi, se faire poutrer 20 millions sur un transfert, c'est mieux que de se faire poutrer en Ligue des Champions, sans parler des bonus de qualification qui compensent cette somme.
Oui, mais après,
pour toi. Ça, c'est mieux pour toi. Ça, c'est mieux
Oui,
pour
mais
toi. Mais
après.
vous connaissez pas la situation du gars, du club. Ça va
Non,
bien,
mais.
mon gars.
Après, moi, je rejoins Barry
Je suis
sur
désolé,
le.
Hitch, de te couper, mais là, on a un magnifique but qui vient d'être marqué par notre ami Fabien
Fabien
Robert.
Robert Ruiz.
Merci à toi pour ce
Merci pour la
magnifique
Lulu.
but et de faire continuer à faire vivre notre chaîne.
Merci.
Exactement, tu peux nous lâcher ta plus belle célébration, Hitch, mais je te laisse
Ah
continuer.
ouais. Je vais brûler les dossiers confidentiels du bureau. Qu'est-ce que je veux dire?
15h, le 11h.
Qu'est-ce que je voulais dire? Go, 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 go,
Vas-y.
la carte de Messi, Messi,
On évoquait justement Skriniar et le fait que tu puisses
Oui, Skriniar,
perdre
oui.
beaucoup
Sur
d'argent
Skriniar, moi,
sur le faisant.
je rejoins Barry un peu sur. Pourquoi Barry, quand il parle au téléphone, il enlève les lunettes? Mais il est fou, quoi, ce mec-là? C'est quoi le rapport?
C'est parce qu'il est au travail.
Je crois que
Mais
l'appel.
vas-y, je te laisse poursuivre.
C'était un appel à l'inconnu, il a enlevé les lunettes, comme ça, c'est devenu un appel normal. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec Barry sur le fait de 50 millions.
70 millions.
50 millions de base, c'était le juste prix. 70 millions, ça fait un peu cher. Et je suis d'accord sur les panic buy en fin de mercato, c'est rarement une bonne idée. C'est rarement, rarement une bonne idée. Et moi, j'ai beaucoup de mal de prendre un joueur comme ça à la fin, alors que la saison, elle est déjà entamée. On a une semaine de jouer contre la Juventus. Il n'a pas de prépa
Exactement.
physique avec le PSG. On le paie 70 millions. Il n'est pas automatiquement opérationnel. Et on ne parle pas d'un joueur top mondial. Il n'était pas top mondial, Skriniar. Skriniar, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas l'un des meilleurs défenseurs au monde. Donc, il
C'est
vient
un
sans
très bon
prépa.
défenseur. C'est un
Oui,
très
c'est
bon
un
défenseur.
très bon
Tu vois,
défenseur,
il
mais c'est.
est... Attends,
Si, si.
déjà, il est top 3 en Serie A, il n'est pas numéro 3, comme le dirait un certain rappeur américain qui fait une certaine punchline là-dessus. Non, non, Skriniar, c'est du très très haut niveau.
Ah
Là, on
oui,
parle.
non, mais
Attends,
bon, ouais,
là, on
c'est
a
pas
besoin.
top 5.
Attends, Hitch, là, on a besoin très spécifique. On cherche un défenseur central droit dans une défense à 3. Il n'y a qui de meilleur que Skriniar dans ce registre?
Non, Skriniar est un des meilleurs défenseurs du monde. Ça, c'est pas le sujet.
Ouais. Mais vas-y, après, Z, tu voulais t'exprimer toi aussi, je crois, sur le transfert de Skriniar.
Je voulais dire que Skriniar, indépendamment du prix, on a un vrai besoin à ce niveau-là. Alors, le fait d'avoir pris Mukiele, tu pourrais réfléchir à plutôt partir sur un mec
Monsieur
gauche.
l'arbitre.
Mais le truc, c'est que de toute façon, il nous en faut un. Et Ramos peut tout à fait être au centre. Enfin, il nous faut quelqu'un derrière. Il nous faut quelqu'un derrière qui correspond à la logique de ce dont on a besoin. Et donc, indépendamment du prix, on a un besoin. C'est pas du tout un panic buy, Skriniar. Skriniar, on en parle depuis un mois et demi presque. Le mercato, il n'avait pas commencé, qu'on en parlait déjà. Le mercato, qu'on en parlait déjà. C'est pas du tout un panic buy. Après, le truc, c'est que les histoires des 60 millions de l'Inter, normalement, ça doit être fait avant le 30 juin. Tout ça, c'est
Ouais.
complètement illisible. Mais s'il y a une réalité là-dedans, Skriniar partira jamais à moins de 60 fixes. Donc, ça sera 60 fixes, peut-être plus des bonus. Et je pense que ce serait un prix, oui, en soi, c'est trop cher. Mais on est dans le besoin. Et si on arrive à ne pas atteindre les 70, bah, moi, je dis banco, go, 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 go.
Bah justement, Kenneth, tu viens de nous rejoindre, même si tu étais dans le chat et que je pense que tu as
Bonjour
quand
à
même
tous.
suivi la majorité du live, salut à toi. Tu as pensé à dire bonjour parce que dire bonjour, ça sauve les nerfs et il n'y a pas que Cyril Gane et Val qui le pensent. Justement, Ken, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Est-ce que pour toi, le PSG doit mettre le prix, quitte à mettre trop pour Skriniar? Parce que Barry dit 70, mais on connaît cet arrêt de l'Inter, ils sont capables de demander 90, un dernier jour de mercato. Est-ce que pour toi, on doit justement aller mettre le prix, quitte à ce qu'il soit jusqu'à 90? Parce que Chelsea risque de faire la même chose avec Fofana et de péter la banque. Ou est-ce que selon toi, on doit se montrer mesuré et ferme dans notre approche comme on l'a été avec Skriniar en disant on a mis tel prix et on n'ira pas plus haut?
Très bonne question. Écoute, ouais,
Champion poids lourd.
c'est la première fois où je suis dans un chat parisien. Pour information, je suis supporter lyonnais, les gars. Donc vous allez les
Un
coups de ça va être sur moi.
mec qui a mis Cholieu,
C'est pas...
Ouais,
Non mais vas-y, je te laisse faire ta chronique, il y aura les commentaires là. Tu connais le chat, ils aiment bien tailler les
il
missions.
n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude déjà à Gunbag. Donc écoutez, après. J'ai entendu juste parler de panic buy tout à l'heure. Pour moi, ce n'est pas un panic buy dans le sens où c'est un joueur qui se ciblait depuis plusieurs mois maintenant. Un joueur qui se ciblait par un manque au niveau d'un poste. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas d'idée et que tu vois, ah, il y a une opportunité de marché sur ce joueur-là pour relancer, comme à Lyon, on fait depuis pas mal de temps maintenant. C'est-à-dire, on va chercher un Moussa Dembélé dans les dernières heures parce qu'on est dans la merde de manière offensive. Et je peux en citer d'autres hein, sur le côté du bord de Lyonnais. Ou dans d'autres clubs, mais là le PSG avait vraiment ciblé ce manque, c'est-à-dire un défenseur central dans une défense à trois côtés droit. Et Skriniar coche toutes les cases à ce niveau-là. Donc après, le temps d'adaptation, j'entends bien avec le groupe, avec la manière de s'entraîner avec le groupe, etc. Oui, maintenant, ça reste un joueur professionnel de qualité. S'il est bon, il sera bon. Maintenant, pour moi, ce n'est... attention, le terme de panic buy, pour moi, ce n'est pas du tout ça. C'est un joueur qui a été ciblé par le PSG depuis plusieurs semaines maintenant, depuis l'arrivée, on va dire concrètement, de Campos, je pense, mon cher tonton.
Ouais, ouais, c'est fait depuis le début du mercato, donc depuis le début juin, qu'on sait donc, que Skriniar est la piste à ce poste. Ouais.
Moi, il y a des choses où j'ai quand même. Voilà, Campos connaît le foot, tu vois, c'est quelqu'un que je trouve assez remarquable là-dessus, qui est capable de vraiment te construire une équipe très compétitive. Par contre, j'aurais d'autres choses à dire parce que pour moi, outre la qualité du défenseur, moi, j'aimerais parler de votre animation défensive. Et pour moi, le problème du PSG, c'est son animation défensive parce que tu pourras mettre la meilleure défense au monde face à des grosses équipes qui te mettront l'intensité en Ligue des Champions. Si ton animation défensive, elle n'est pas en rendez-vous, vous serez zéro encore une fois, les gars. Moi, je vous dis, dans la première victoire, je m'intéresse au foot de manière générale. C'est pas parce que je suis supporter lyonnais que je vais bâcher le PSG, bien au contraire. Votre manque, pour moi, est au milieu de terrain. Vous n'avez pas un milieu de terrain qui met l'impact physique. Pour moi, je sais que vous avez un amour inconditionnel pour Verratti. Mais moi, je suis désolé, les gars. Aujourd'hui, Verratti, c'est pas un milieu qui te met des buts. C'est un milieu qui va te gratter des ballons. Mais c'est pas celui qui va te faire la course vers l'avant. C'est pas celui qui va te mettre l'impact physique. C'est pas celui qui va te faire la course... une course vraiment de tranchées, si je puis dire, comme dans les tranchées, où le mec il va percer des lignes, où il va te mettre la frappe, il va te mettre l'impact. Moi, honnêtement, je suis PSG, je saute sur un Seko Fofana en Ligue 1. Moi, honnêtement, je vous le dis, hein, Seko Fofana dans votre milieu, parce qu'il faut prendre en compte, vos trois là devant là ne feront jamais les replis défensifs tout le temps. Voilà, il y aura toujours ce côté égo. Il y a eu un discours bon, de Juninho dans Rotten Central, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais Messi va regarder ce que va faire Mbappé en repli défensif. Il ne le fait pas. Pourquoi je le ferais? Neymar, ça va être pareil. Et encore, Neymar, c'est un des seuls qui, de temps en temps, le fait le plus. Mais dans la durée, moi, j'attends de voir, honnêtement. Pour l'instant, Galtier, la seule chose qu'il a fait, c'est de mettre les joueurs à leur place, recréer une certaine dynamique. Mais dans la durée, moi, pour moi, votre milieu se fera bouffer. Et la preuve, Vitinha prend trop de cartons depuis qu'il est arrivé à comparer à Porto.
Bien sûr, je te pose juste la question. Ce n'est pas du tout hautain quand je te la pose, mais... Donc du coup, si je comprends ton raisonnement, tu me dis que c'est Fofana qui va résoudre des problèmes défensifs, c'est ça? C'est une question, hein, c'est pas une critique.
Non, alors moi je pense que si vous voulez, votre équipe, à l'heure actuelle, en Ligue 1, ça va rouler. Il y aura peut-être des équipes qui vont vous poser des problèmes, mais de manière générale, en Ligue 1, ça va rouler. Moi, je pose vraiment la question sur des grands rendez-vous face à des équipes qui vont vous mettre l'intensité et où leurs milieux de terrain sont vraiment très très forts. Et moi, je pense que…
Phil Fofana en Europe.
Je ne sais pas si c'est forcément, mais je vous dis, c'est dans le profil d'un Seko Fofana. Moi, je pense que face à de grosses équipes, il va falloir enlever un des trois devant. Un des trois devant, il va falloir avoir un milieu à deux.
Déjà, en tout cas, tu vois, au niveau des stats défensifs, je ne sais pas si tu connais le site FBref. C'est le site qu'utilise Willow. Et du coup, Willow, il utilise ce site pour voir les statistiques des joueurs. Et du coup, ça te permet de voir tel joueur par rapport à son poste. Il fait partie du tel de pourcent dans tel registre de jeu, Et c'est le but de Fabien Robert que je suis obligé de célébrer. Merci à toi. Pour répondre à ça, justement, en fait, Fofana, vraiment, en termes de pression, en termes de tacle, en termes de ballon contré, de duel aérien gagné, de dégagement, il est vraiment dans ce qui se fait le pire à son poste. Donc, lui qui va résoudre ces problèmes-là, tu vois.
Ah bon, moi je te dis qu'il apportera beaucoup plus qu'un Verratti en termes de.
C'est un autre juste que Verratti.
Mais moi j'ai une question simple. On parle de Renato Sanchez. Et on parle.
Renato, il n'a rien prouvé sur la durée. Hein.
Oui, mais on parle de Renato Sanchez et Seko Fofana. Est-ce que ce n'est pas à peu près le même style de joueur?
Pas tout à fait, mais je veux dire, les deux, ils vont laisser des trous, c'est pas des cracks défensifs.
Mais fondamentalement, c'est des milieux polyvalents, les deux. C'est des milieux polyvalents, à but de projeter, et
J'ai une question pour tout le monde. Combien de clubs en Europe, et on parle des cadres européens, avec un profil box-to-box? Bonne chance. Hein.
Beaucoup.
Ah, bah vas-y, cite-les.
Renato, il a un profil box-to-box, de base.
Attends, t'as dit cadres européens.
Cadres européens. C'est-à-dire, tu prends Liverpool, tu prends
City. Le Bayern, City, le Barça, le Real.
Cite-moi des clubs qui jouent avec des box-to-box en Europe.
Ah, le Barça a recruté Kessié, mais est-ce que Kessié s'inscrit
ouais,
logiquement
mais
est-ce qu'il et est-ce qu'il est titulaire aussi, tu vois
non, mais, box. Parce qu'il est,
non,
il est...
Non, mais aujourd'hui je te parle dans un système, je te parle dans un système à milieu à deux.
Comment si tu peux pas répondre à la question, laisse-moi continuer.
Ouais, excuse-moi, vas-y,
je voilà. En fait, si c'est tu veux, le box-to-box, c'était peut-être bien avant, mais c'est pas le retour du mode, c'est pas dans le méta-jeu, et c'est pas de cette manière-là qu'on joue à l'heure actuelle. On joue beaucoup plus, bah, justement, par des permutations, par la circulation du ballon, et c'est vraiment ce qui est pratiqué, et par un pressing, bien sûr, ça, là, on parlait avec le ballon, et par un pressing qui est tout terrain. Et donc, pour moi, Seko Fofana, déjà, Seko, il y a un moment, il surperforme à Lens, et il fait un très, très bon début de saison, mais si on regarde bien Seko Fofana...
Ça fait trois saisons quand même.
Hein?
Ça fait trois saisons maintenant qu'il commence à surperformer, comme tu dis. Hein.
Oui. Mais si on regarde bien, c'est pas non plus de la dentelle. C'est-à-dire, effectivement, il va porter très très bien la balle, et créer le premier décalage, mais les passes qu'il met derrière, c'est pas de la dentelle. C'est pas top niveau. Et ensuite de ça. Enfin, est-ce que c'est un profil dont on a besoin? Et là, tu vois, là, Tonton l'a très bien dit, tu t'enlèves Verratti à cause d'un problème d'assise défensive. Verratti, pour moi, il a un problème défensivement, c'est qu'il n'est pas du tout un défenseur en zone, c'est-à-dire qu'il ne va pas du tout intervenir là où sera l'action, mais en défenseur sur l'homme. Si on reprend au niveau statistique, c'est un des meilleurs joueurs d'Europe.
Après, Z, on sait quel est le milieu idéal que tu as recruté dans cette équipe. On sait qu'il s'appelle Calvin Phillips. Je suis désolé pour toi. Il a déjà signé à Manchester City, donc il ne jouera pas chez nous. Donc là, on va prendre des joueurs qui ont envie de jouer chez nous.
J'ai quelque chose pour répondre à Z.
Bon joueur.
Vas-y, Ken.
Ouais, j'ai quelque chose pour répondre. À la différence, peut-être, d'autres clubs, comme tu dis, qui n'ont pas forcément de milieu box-to-box, moi, je te dis juste une chose. Les trois devant à Liverpool, les trois devant, enfin, en fonction de chaque équipe, font-ils les replis défensifs ou pas, à l'instar de vos trois devant?
Alors, oui,
bah, Lille, c'est ce qui fait toute la différence. Je suis désolé, à un moment donné.
Liverpool, Mané le faisait pas ça là.
Ouais, mais Mané, ça là, c'était tout seul à pas le faire.
Contre Lille, même Messi les faisait les repas. Alors après, effectivement, contre Lyon, ça s'est pas vu, etc. Et pour l'instant, on est vraiment sur des
illusions. Il ne viendra jamais, mais excellente idée, Roberto Rodrigo.
Début de la saison, voilà.
Oh, on a un nouvel abonné. Salut Harry. Mais vas-y, justement, je te laisse poursuivre.
Début de la saison, il y a peut-être une promesse que les efforts défensifs seront faits. Alors pour l'instant, c'est pas confirmé. Et tout à l'heure, tu disais que Neymar le faisait un petit peu, mais justement, en Ligue des Champions, et une des grandes qualités de Neymar en Ligue des Champions, c'est quand le match compte, à ce moment-là, ça devient limite un chien défensif, il en faisait autant que Di Maria.
Neymar, c'est le joueur qui abat plus de kilomètres, hein, que ce soit en Ligue des Champions ou certains matchs de Ligue 1, c'est le joueur qui court le plus.
Non, mais si vous contentez des joueurs qui le font par parcimonie...
Alors là où Ken dit quelque chose d'intéressant, c'est ça, c'est si on le fait par contre, c'est pas par parcimonie, c'est tout le monde doit le faire en même temps. Bien sûr.
Mais après c'est ça. Après ça va dépendre du leadership du coach. Ça va dépendre de l'osmose du groupe. Ça va dépendre de pas mal de choses parce qu'encore une fois, le problème du Paris Saint-Germain, nous les Parisiens le disent, les gens Parisiens le disent, ceux qui sont neutres le disent.
Je suis désolé de te couper, mais en fait, ce n'était pas un sticker, c'était un but qu'on a eu de notre ami tout à l'heure, donc il a le droit à son jingle. Je suis désolé de pas l'avoir eu. Mais vas-y, je suis désolé de
t'inquiéter. Du coup, le problème du Paris Saint-Germain, c'est un problème mental. En réalité, c'est un problème d'ego, c'est un problème mental. Donc voilà. Donc bien sûr que si les trois de devant. Les trois de défense se motivent à l'image d'un Neymar, parce que Neymar, pour moi, c'est le joueur qui il est au début, à la fin et au milieu de chaque action, mais également il revient défensivement. Si les trois joueurs de devant peuvent faire ça, ou au moins la moitié de ce que fait Neymar, mais on est imprenable.
Sauf qu'aujourd'hui, tu verras dans les gros clubs, la plupart des milieux ont des bonnes frappes de balles et marquent des buts. Ça de 1. Benzema l'a très bien dit. La facilité, et je parle de la facilité pas pour un club comme l'Olympique Lyonnais, je parle de. Moi, je me mets dans une autre dimension. Attention, je ne dénigre absolument pas les joueurs que vous avez. Maintenant, moi, je parle simplement de quelque chose qui aura de plus-value, à mon sens, pour le PSG. Et moi, je vous dis. Des milieux qui marquent des buts, des milieux puissants. Je ne dis pas puissants uniquement à avoir une assise physique et ne pas savoir jouer au ballon. Attention, Verratti, c'est un très beau joueur de foot. D'accord. Mais peut-être dans un milieu à trois avec deux très bons joueurs, je pense qu'il peut être vraiment complémentaire. Mais ce n'est pas le joueur qui fera la différence pour le
PSG. Oui, mais c'est un euphémisme. C'est un euphémisme de dire quoi? De dire oui, mais Verratti, physiquement c'est compliqué, il apporte pas parce qu'il croit.
C'est une réalité.
Moi, je tiens juste à rappeler l'Euro de l'Italie. L'Euro de l'Italie, on disait.
Combien de sélections Verratti en Italie?
On disait tous, mais.
Mais les blessures, on s'en rend compte quand même.
Attends, oui, je sais ce qu'il va dire. Vas-y.
À rappeler l'Euro de l'Italie. Lorsque on disait que oui, Verratti, il va être juste Locatelli. Devant Verratti, Verratti il n'a pas de niveau. Je suis désolé, à chaque match de l'Italie, Verratti il était quasiment comme du match.
Premier match où Verratti rentre, il met tout le monde d'accord.
Je pense que si l'Italie prenne l'euro, bien sûr, il y a Chiesa, bien sûr qu'il y a l'animation offensive de l'Italie, mais il y a surtout
Donnarumma aussi.
Il a été monstrueux pendant cet euro. Et moi, je suis désolé, si le Barça, ils veulent Verratti comme Orochimaru, ils veulent Sasuke, c'est pas pour rien. C'est parce que Verratti, c'est un top joueur.
Ils l'ont voulu il y a des années quand il promettait des choses encore.
Verratti, s'il est libre actuellement, il va dans n'importe quel top club. Parce que Verratti, balle au pied, il a un caution intellectuel, c'est un génie.
On a grillé un supporter de Chelsea infiltré là. Tu crois qu'on t'a pas capté, Frédéric Winter? Sors de ce corps orphan, je t'ai grillé.
il y a Guardiola qui dit le plus grand bien de Marco Verratti et notamment sa déclaration dans la confrontation en Ligue des Champions où Marco Verratti allait peut-être être blessé. Il était juste en train de dire j'espère qu'il sera là parce que nous on a envie de jouer contre les meilleurs joueurs en Europe. Après moi j'ai des problèmes avec Marco Verratti. Mon problème avec Marco Verratti c'est qu'on sait toujours pas.
Je n'ai jamais dit que c'était un mauvais joueur.
Non.
Notre ami est italien.
Mais moi, mon
sentinelle à la Motta.
Le problème avec Marco Verratti, c'est qu'on sait toujours pas à quel poste, quel est son meilleur poste en fait. Est-ce qu'il est très bon en 6? Bah 6 seul, bah il est pas bon en zone, donc ça pose problème.
C'était un débat qu'on avait eu sur une vidéo d'ailleurs toi et moi, le meilleur poste de Verratti.
Mais est-ce qu'il est bon en 8? Bah non, il monte pas assez et c'est un gros bug ce joueur. Et après l'autre bug qu'il a, c'est les trop de touches de balle. Mais si tu enlèves ces deux défauts là. S'il avait su se métamorphoser sur ces deux défauts-là et par exemple savoir défendre en zone et passer la balle un peu plus vite, je pense que ce serait juste le meilleur milieu européen.
J'aurais pu en faire une régista incroyable de Verratti en l'exploitant bien, mais pour moi, Verratti il est encore mieux dans un milieu à 3 qu'à 2, donc c'est vrai qu'actuellement
je le mettrais accompagné d'un 6 avec vraiment un 8 qui est vraiment puissant derrière. Je l'accompagnerais d'un Fabinho sur une pointe basse à deux et avec un joueur 8 vraiment puissant qui est capable de faire les efforts.
Voilà. Imagine un milieu Verratti, De Jong, Gundogan par exemple, tu vois.
Oui, après Gundogan.
Encore une fois, dans un milieu à 3 vraiment très bien accompagné, ça peut être un excellent, mais c'est pas le joueur pour moi qui va faire les différences au PSG. Je suis désolé. Ça fait des saisons, les gars, vous faites ouvrir par le milieu. Faut se poser des questions à un moment donné.
C'est mieux là-dessus parce que même en Ligue 1, si tu veux, l'année dernière, t'avais complètement raison. L'année dernière, c'était open bar. Et si tu prends par exemple, moi, ce que je trouve très intéressant d'analyser sur cette saison, c'est les 20 premières minutes à Lille où, mine de rien, on voit quasi pas le jour. Mais si tu t'amuses à faire le bilan des frappes que Lille a, et ils en ont beaucoup pendant ces 20 minutes-là, elles sont extrêmement simples à arrêter par la gardienne. C'est-à-dire qu'en toi, l'équipe n'est jamais mise en difficulté et tu as un très bon accompagnement, y compris du milieu, ce qui n'était pas du tout le cas les saisons passées, y compris du milieu qui permet ça. Alors après, est-ce que ça va se faire sur la durée? Je sais pas.
Avec Vitinha.
Il y avait Vitinha. Vitinha est essentiel. Marco Verratti a été exceptionnel là-dessus, même si Vitinha, pour moi, les 20 premières minutes, il est décevant parce que justement, il cherche pas de solution vers l'avant. Il a plusieurs fois la balle et il est trop latéral dans ses choix. Mais au niveau de cette assise, au niveau du fait de se faire ouvrir par l'axe, ben, c'était pas le cas dans les 20 premières minutes de Lille. Et pour moi, les 20 premières minutes de Lille, en fait, c'est peut-être le truc qu'il faut vraiment analyser. Après, t'as peut-être raison, hein, Ken. T'as peut-être raison. Peut-être que sur le long terme.
Mais je connais pas votre club. Je connais moins bien votre club que vous.
Mais Ken, justement, il y a un commentaire qui est super intéressant qui parle de ça. Regarde, je viens de te l'afficher. Verratti joue avec qui au milieu depuis 4 saisons? Tu m'étonnes qu'il ait du mal au milieu chaque saison. Je suis désolé, les mecs. Hein. Tu peux appeler Kroos, tu peux appeler Kimmich, Modric, Gundogan, De Bruyne, qui tu veux. Tu fais jouer à côté des peintres, à côté de qui Verratti a joué entre 2017 et aujourd'hui. La tête de ma mère, il ne fait pas mieux que Verratti. Qui aurait fait mieux que Verratti dans les mêmes dispositions? Les mecs auraient sombré mentalement.
Après ce que dit Ken, c'est pas forcément faux parce que moi aussi je le disais au début de vidéo, je disais moi j'attends de voir une équipe avec une forte densité avec un milieu à deux, Vitinha Verratti. Pour moi quand même Vitinha Verratti, ça manque quand même de densité physique. Et c'est vrai. Certes, il y a des équipes qui performent avec un milieu que technique. Je vais reprendre le Barça. Mais quand même, il faut quand même un chien fou quand même dans ce milieu-là, un mec qui peut ramener une dimension physique. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on a pris Renato.
C'est qui mais, à City? C'est qui le chien fou à City?
Il y a quand même Gundogan. Gundogan, il court.
Mais oui, mais c'est pas.
Bah,
mais,
non,
mais, non, ce, non le chien fou, le chien fou vient d'être recruté, c'est Calvin Phillips.
Non, mais il y a
Calvin Phillips aussi,
oui. Chien fou à City, Gundogan, c'est tout sauf un chien fou. Au contraire, c'est un joueur.
Gundogan, c'est pas un joueur technique, c'est pas un régista, c'est pas un mec une touche de balle.
Il est super technique, Gundogan.
Il va venir presser. Gundogan.
Tu l'as pas vu jouer, mais.
Gundogan a le profil de Vitinha. De Gundogan a le profil de Verratti.
Il n'a pas le profil tout à fait de Vitinha, mais.
C'est pas les mêmes, mais c'est un joueur très technique, Gundogan.
C'est un joueur très technique.
Il faut quand même mettre une différence entre un joueur avec
Rodri, c'est un 6.
Dans ce cas-là, Renato,
Rodri, c'est un 6.
Il est puissant.
Il est mon 6. Rodri, c'est un 6. On est d'accord.
Il a toutes les qualités. La différence, Rodri. Alors après, là où je vous rejoins.
T'as un bug de son, je crois, Z.
Ouais.
Non, c'est pas chez moi.
C'est le live tout court qui a un bug.
Ok, bah c'est bon, on entend, tu peux continuer.
Ouais, mais le truc, ça, c'est très perturbant. Le truc, ouais, c'est pas toi, tonton.
Non, bah, ça vient du live tout court. De toute façon, on a dépassé l'heure de live. On a un peu fait tous les sujets.
Le truc où je vous rejoins, en fait, c'est le problème de taille. Après, là où on n'est pas d'accord, c'est que Verratti, défensivement, c'est justement le chien fou presque parfait. Le mec, il va chercher. Verratti, c'est le mec qui va enlever le caleçon quand il ne peut plus arrêter le mec. Il lui enlève le short. Toi. C'est le nombre de récupérations qu'il te fait par match.
Je me rappelle parfaitement de ce moment où il s'attache au short du mec qui part en courant. Le commentateur lyonnais qui fait 5 ans en criant.
Après, pour te rejoindre, Ken, oui, si tu compares à Rodri, le mec, il est bon en défense en zone, il est bon en défense sur l'homme, il est grand, il est très fort techniquement, mais Rodri, c'est, t'en as combien, enfin, tu vois, mais c'est pas non plus un chien fou. Et enfin bon.
Pour aujourd'hui, moi, on est dans un football d'intensité. Si tu mets pas de l'intensité dans les matchs,
on est d'accord. Et le problème avec Marco Verratti sur ce sujet-là, c'est la touche de balle en trop. C'est le fait de pas passer la balle tout de suite.
Son hygiène de vie, le fait qu'il soit pas là souvent sur les gros matchs aussi.
Ouais. Ah, il est de plus en plus présent sur ces matchs-là, Ken. Ça, c'est une remarque qui marchait beaucoup à un moment, je suis d'accord avec toi, mais c'est malheureusement plus d'actualité, comme le fait que le PSG ne surpaye plus les joueurs comme il le faisait par avant. D'ailleurs, je vois qu'on a fait plus d'une heure de live, les gars, ce qui est assez inhabituel. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous dès demain soir pour faire le débrief de PSG Toulouse pour ceux qui seront présents. Merci à tous d'avoir participé à ce live. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur le live pour nous aider au référencement et à vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure. N'hésitez pas également à vous abonner à notre deuxième chaîne qui ne parle pas que du PSG, qui s'appelle Foot Central, parce qu'il y a d'autres clubs que le PSG, que le foot, dans le foot, même si on ne dirait pas tout le temps. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. Merci à Itch, merci à Zed, merci à Ken de Gunback. N'hésitez pas à vous abonner à Gunback et au débrief de Itch qui a aussi sa propre chaîne. Merci à tous d'avoir fait ce débrief avec nous. Et ici, c'est Paris.
Ici, c'est Paris. Merci la chaîne.